Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 10, l'autre guerre civile. Première partie. À l'automne 1839, un shérif des environs d'Albany, dans la vallée de l'Hudson, dans l'état de New York, s'apprêtait à collecter les loyers des fermiers installés sur le gigantesque domaine de Rensselaer, lorsqu'on lui remit un courrier. Les fermiers ont décidé de ne pas payer leur loyer tant que l'on n'aura pas entendu leurs revendications. Les fermiers s'accordent désormais le droit d'agir envers leurs propriétaires comme celui-ci agit envers eux depuis trop longtemps, c'est-à-dire comme bon leur semble. N'allez pas imaginer qu'il s'agit d'un jeu. Si vous venez ici dans le cadre de vos fonctions officielles, je ne garantis pas votre sécurité. Signé, un fermier. Lorsqu'un adjoint se présenta dans cette zone avec un commandement de payer, les fermiers, alertés par des sons de trompe, firent leur apparition, se saisirent des documents et les brûlèrent. En décembre, un shérif et 500 cavaliers se rendirent dans la région. Ils se retrouvèrent rapidement pris dans un concert de clairons au milieu de 800 fermiers à cheval, armés de fourches et de gourdins, qui leur barraient la route tandis que 600 autres bloquaient leurs arrières. Le shérif et sa troupe durent faire demi-tour. C'était le début du mouvement anti-loyer dans la vallée de l'Hudson, décrit par Henry Chrisman dans Tin Heart and Calico. Il s'agissait de protester contre le système patricien hérité des Hollandais qui, au XVIIe siècle, régnait sur la colonie de New York. Un système dans lequel, selon Chrisman, une poignée de familles intimement liées par le biais des mariages décidait du destin de 300 000 personnes et régnait avec un faste quasi monarchique sur près de 800 000 hectares. Les fermiers payaient des loyers et diverses taxes. Le plus grand des domaines appartenait à la famille Rensselaer, qui contrôlait quelque 8 000 métayers et possédait une fortune de 41 millions de dollars. À l'été 1839, les fermiers tinrent leur première grande assemblée. À la suite des licenciements massifs qui avaient accompagné la fin de la construction du canal de l'Érié et de la première vague de lignes de chemin de fer, la crise économique de 1837 avait attiré dans la région de nombreux chômeurs à la recherche de terres. Cet été-là, les fermiers décidèrent de reprendre la révolution là où nos pères l'ont arrêtée et de la mener jusqu'à complète libération et indépendance du peuple. Certains habitants de cette région agricole devinrent de véritables militants et organisateurs, à l'instar de Smith Buckton, médecin de campagne itinérant, ou de Angie Devere, révolutionnaire irlandais émigré. Devere pouvait témoigner de la responsabilité des monopoles fonciers et industriels dans l'effroyable misère qui frappait les taudis de Londres, de Liverpool et de Glasgow. Ayant activement milité pour que cette situation change, il avait été arrêté pour activité séditieuse avant de chercher refuge en Amérique. Des milliers de fermiers de la région de Rensselaer s'étaient organisés en groupes anti-loyers afin d'empêcher les propriétaires de les expulser. Ils avaient adopté le costume traditionnel indien en une double référence à la Tea Party de Boston et aux premiers occupants des terres. Le clairon, en éteint, évoquait l'appel aux armes des Indiens. 10 000 hommes furent bientôt prêts à agir. Le mouvement touchait tous les comtés de l'État et des dizaines de villes le long de l'Hudson. Des tracts firent leur apparition. « Attention, anti-loyer, réveillez-vous, debout. Combattez jusqu'à ce qu'expire le dernier de vos ennemis. Combattez pour votre foyer et vos hôtels. Combattez pour la verte tombe de vos aïeux. Les shérifs et leurs adjoints, qui s'obstinaient à vouloir délivrer des commandements de payer aux fermiers, étaient régulièrement cernés par des cavaliers déguisés en indiens que le son des clairons avait alertés. Ils étaient ensuite enduits de goudron et couverts de plumes. Le Herald de New York, après avoir soutenu ce mouvement, déplorait à présent cet esprit de révolte. L'un des éléments les plus détestés du système de fermage par bail accordait aux propriétaires le droit de ramasser le bois sur le terrain même des fermes. Un homme, envoyé sur les terres d'un fermier pour y ramasser le bois, fut assassiné. La tension s'accrut et un garçon de ferme fut également assassiné mystérieusement. Bien que personne ne sût exactement par qui, le docteur Boughton fut arrêté. Le gouverneur fit envoyer l'artillerie et une compagnie de cavalerie new-yorkaise se rendit sur place. Une pétition demandant l'instauration de mesures anti-loyers fut signée par près de 25 000 fermiers et une proposition de décret fut discutée devant la législature de l'État en 1845. Après que cette proposition eut été repoussée, un genre de guérilla reprit dans les campagnes entre les Indiens et les troupes des shérifs. Boughton resta 7 mois en prison avant d'être relâché sous caution. Au cours des célébrations du 4 juillet 1845, des milliers de fermiers affichèrent leur volonté de poursuivre la lutte.
C'est la révolution, c'est pas une plaisanterie.
La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate, c'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, le moment est de changer tout ça. Je sais très bien de quoi je parle, c'est putain de révolution, j'ai grandi dedans.
La mise en vente par les autorités du bétail d'un certain Moses Earle, qui devait $60 de loyer pour 65 hectares de terrain pierreux, provoqua une escarmouche au cours de laquelle l'adjoint du shérif fut tué. Des tentatives similaires de vente du bétail en remboursement des dettes furent régulièrement empêchées. Le gouverneur fit envoyer 300 soldats pour mater ce qu'il qualifiait d'état de révolte. Bientôt, une centaine de fermiers anti-loyers furent jetés en prison. Smith Boughton, originellement accusé d'avoir dérobé des documents officiels, fut, en fait, jugé pour haute trahison, soulèvement contre le gouvernement et insurrection armée. En conséquence, il fut condamné à la perpétuité. Les dits indiens que l'on avait découverts armés et travestis chez Moses Earle lorsque le shérif adjoint avait été tué, comparurent devant le juge et le jury sous l'inculpation de meurtre. Ils furent tous jugés coupables et condamnés à la perpétuité, excepté deux d'entre eux qui furent condamnés à être pendus. Au prétexte de leur éviter de lourdes peines, on exigea de deux responsables du mouvement qu'ils rédigent une déclaration demandant aux fermiers anti-loyers de se disperser. C'est ainsi que prit fin le mouvement anti-loyer.
Chut. S'il te plaît, ne me parle plus de révolution.
Il s'agissait de prouver aux fermiers qu'ils ne pouvaient espérer l'emporter par la lutte armée. Ils devaient donc se contenter de voter et d'espérer que des réformes fussent engagées par la suite.
Et qu'est-ce qui arrive quand c'est fini, pauvre con ? Rien, tout recommence comme avant.
Aux élections de 1845, les anti-loyers envoyèrent 14 représentants à la législature de l'État. Le gouverneur Silas Wright commua alors les deux peines de mort en emprisonnement à vie et demanda que l'on entende les revendications des fermiers et que l'on mette fin au système foncier de type féodal qui sévissait dans la vallée de l'Hudson. Un projet de loi visant à démanteler les gigantesques propriétés à la mort de leurs propriétaires fut rejeté. Le Parlement de l'État de New York vota cependant une loi qui interdisait la vente des biens des fermiers en remboursement des loyers impayés. La même année, une convention constitutionnelle interdisait que l'on perpétue le système féodal d'attribution des terres. Le gouverneur suivant, élu en 1846, avec le soutien des votes anti-loyers, tint sa promesse de gracier les prisonniers. Au cours des années 1850, certaines décisions de la cour de l'État limitèrent les aspects les plus injustes du système domanial, sans néanmoins modifier en profondeur les rapports propriétaires-fermiers qui le caractérisaient. Des mouvements sporadiques de résistance au recouvrement des dettes locatives se poursuivirent dans les années 1860. Jusqu'en 69, des groupes dits d'Indiens continuèrent à se rassembler pour empêcher les opérations menées par le shérif pour le compte de Walter Church, un riche propriétaire de l'État. Au début des années 1880, un shérif adjoint fut abattu, tandis qu'il essayait de s'emparer des biens d'un fermier attaché à ce même Walter Church. Mais à cette époque, de nombreuses terres étaient passées dans les mains des fermiers. Dans trois des principaux comtés anti-loyers, 2000 fermiers seulement, sur un total de 12 000, continuaient de louer leurs terres. Les fermiers s'étaient battus, puis, après avoir été lourdement réprimés par la loi, s'en étaient finalement remis au vote. Au bout du compte, le système se stabilisa par un élargissement de la classe des propriétaires, sans modifier la distinction fondamentale entre riches et pauvres. Un schéma dont l'histoire américaine offre de nombreux exemples. Sensiblement contemporaine du mouvement anti-loyer de l'État de New York, la révolte dite de Dorr secouait également le Rhode Island. Comme le souligne Marvin Gentleman dans son livre « The Dorr Rebellion », il s'agissait autant d'un mouvement en faveur de la réforme du système électoral que d'une sorte d'insurrection radicale. La charte du Rhode Island stipulait en effet que seuls les propriétaires terriens bénéficiaient du droit de vote. Le mouvement d'exode rural et l'arrivée de travailleurs immigrés dans les industries locales aggravaient donc le déséquilibre électoral. Un certain Seth Luther, charpentier autodidacte de Providence et porte-parole des travailleurs, rédigea en 1833 un appel en faveur du droit de vote universel qui dénonçait la monopolisation du pouvoir politique par les petits lords, rejetons, nobliaux et aristocrates de la patate du Rhode Island. Il prônait l'arrêt de la coopération avec les autorités de l'État par le refus de payer les taxes ou de servir dans la milice. Pourquoi ? Demandait-il. 12 000 travailleurs du Rhode Island, privés du droit de vote, devraient-ils se soumettre à 5 000 propriétaires électeurs ? Thomas Dorr, avocat, pourtant issu d'une famille aisée, prit la tête de ce mouvement en faveur de la réforme électorale. Les travailleurs s'organisèrent en association du Rhode Island pour le droit de vote et au printemps 1841, des milliers d'individus défilèrent dans les rues de Providence avec des bannières et des pancartes exigeant la réforme du système électoral. En dehors du système législatif légal, ils organisèrent leur propre convention populaire et rédigèrent une nouvelle constitution qui rejetait la légitimité du critère de propriété dans l'attribution du droit de vote. Malgré cela, en mai 1842, les partisans de Dorr organisèrent dans les rues de Providence une sorte de cérémonie d'investiture à grand renfort de défilés composés d'artisans, de commerçants, de manœuvres et de miliciens. Le Parlement populaire, récemment élu, se réunit. Mais Dorr fit une grave erreur en tentant de prendre d'assaut l'arsenal local avec une artillerie totalement déficiente. Le gouverneur officiel ordonna son arrestation. Après s'être réfugié hors des frontières de l'État, Dorr chercha à organiser une force armée pour le soutenir. Contre l'avis de Dorr et de quelques autres, la Constitution populaire réservait le droit de vote aux Blancs. Furieux, les Noirs du Rhode Island se joignirent alors aux forces de la coalition de la loi et de l'ordre qui leur avait promis qu'une nouvelle convention constitutionnelle leur accorderait à eux aussi le droit de vote. Lorsque Dorr fut de retour au Rhode Island, plusieurs centaines de ses partisans pour la plupart de simples travailleurs, étaient prêts à se battre pour défendre la constitution populaire. Face à la milice régulière de l'État, riche de milliers d'hommes, le soulèvement échoua. Dore dut à nouveau fuir le Rhode Island. Dore rentra au Rhode Island à l'automne 1843. Il fut arrêté dans les rues de Providence et jugé pour trahison. Le juge demanda au jury d'ignorer tous les aspects politiques de l'affaire et de ne juger que de la réalité des actes subversifs qu'il avait pu commettre, actes qu'il ne niait d'ailleurs pas. Le jury le jugea coupable et le condamna à la prison à vie et aux travaux forcés. Dore passa 20 mois en prison avant d'être gracié par le nouveau gouverneur, représentant du parti de la loi et de l'ordre, soucieux d'éviter d'en faire un martyr. L'action armée avait été inefficace. La voie électorale avait échoué et les tribunaux s'étaient rangés du côté des conservateurs. Le mouvement anti-loyer et la révolte de Dore sont généralement ignorés par les manuels d'histoire américains. Dans ces manuels, destinés à des millions de jeunes américains, on trouve peu de traces des conflits de classe du XIXe siècle. Les périodes qui précèdent et suivent la guerre de sécession ne sont traitées que sous l'angle des questions politiques, électorales ou raciales. Même lorsque les livres concernent l'ère Jackson, traitent des rapports sociaux et de l'économie, il se concentre sur la fonction présidentielle et perpétue ainsi la traditionnelle focalisation sur nos héroïques dirigeants aux dépens des luttes populaires. Andrew Jackson prétendait parler au nom des membres les plus humbles de la société, les fermiers, les manœuvres et les travailleurs. Certainement pas, en tout cas, au nom des Indiens expulsés de leurs terres, ni au nom des esclaves. Mais les tensions nées de l'essor de l'industrialisation et de l'immigration croissante imposaient au gouvernement d'obtenir un soutien suffisamment large au sein de la population blanche. C'est exactement ce que réussit la démocratie jacksonienne. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.